Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Puis, vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule avant que nos chroniqueurs Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, et Benaouda Abdedaïm, notre globe-trotteur, vous fassent découvrir leur livre d'avant et leur livre d'ailleurs. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, Librairie de l'écho. Et on démarre tout de suite avec nos invités. Eh bien, la librairie de l'écho vous propose aujourd'hui de passer à table, d'aller voir dans nos assiettes ce qu'on y trouve vraiment. Pourquoi les peurs alimentaires sont-elles si grandes alors que sur le plan sanitaire, notre alimentation n'a jamais été aussi sûre? N'exagère-t-on pas la dangerosité de tout un tas de produits, du sucre au gras, des pesticides aux OGM? Et dans quel but? Au profit de qui? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Le premier, Bernard Pellegrin. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant après avoir passé 25 ans à l'AFP et vous publiez Sucre, enquête sur l'autre poudre aux éditions Taillandier. Notre deuxième invité est Gilles Rivière-Weckstein. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement et vous publiez Panique dans l'assiette aux éditions Le Publieur. Alors, on commence avec vous Bernard Pellegrin. Alors c'est simple, hein. Sucre, l'autre poudre, vous y allez pas un peu fort?
Alors d'abord, c'est pas moi qui utilise le mot l'autre poudre, c'est un chercheur du CNRS que je cite à plusieurs reprises dans mon livre, Serge Hamed, qui il y a une dizaine d'années a fait une expérience qui a révolutionné un peu le monde sur le sucre, si j'ose dire, en montrant que des rats qu'on avait habitués à prendre de la cocaïne, quand on leur proposait un choix entre la cocaïne et l'eau sucrée, ils se tournaient vers l'eau sucrée. Et ils l'ont fait une fois, deux fois, dix fois, et ils l'ont fait avec lui, avec plein d'autres, dans plein de laboratoires dans le monde, ce qui l'a amené à décrire l'addiction au sucre et à montrer que le mécanisme était assez proche de celui de la cocaïne, et même mieux, d'après ce qu'il dit, plutôt celui de l'héroïne. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez en lançant votre émission. C'est-à-dire que, pour être très simple, le sucre 1 n'est pas dangereux.
Oui.
2 est nécessaire. Après, le problème, c'est...
Alors, l'excès. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est quoi?
L'excès.
C'est ça, c'est qu'on en consomme trop. Vous donnez les chiffres. En France, vous dites, la consommation raisonnable, ce serait 9 kilos par personne et par an. Or, on est plutôt entre 25 et 35 kilos.
C'est ça, c'est
mais
ça.
Parce que, vous dites, le problème, c'est que le sucre, en fait, il est
partout.
Absolument partout.
Voilà. Et alors, il est partout et surtout, il est souvent très caché maintenant. C'est-à-dire que vous mangez du sucre à l'insu de votre plein gré, comme on dit. Vous achetez de la copa sous cellophane dans un supermarché, des
sucres. Donc de la charcuterie, il y a du sucre.
Dans la charcuterie industrielle, il y a bien sûr du sucre. Il y a du sucre dans les potages minutes, il y a du sucre dans les boîtes de conserve.
Pourquoi?
Parce que c'est un exhausteur de goût,
ouais.
Et que au fur et à mesure que le goût sucré s'est installé dans la tête des consommateurs, comme c'est une addiction, ils le recherchent. Et je donne toujours un peu le même exemple. Bien sûr que le vinaigre balsamique traditionnel italien est bien supérieur et bien meilleur, mais le balsamique ordinaire, on l'achète parce qu'il est sucré.
Parce que le vrai balsamique n'a rien à voir avec l'espèce de jus qu'on nous
propose. Mais déjà, on n'y met pas de caramel. Le balsamique de base, on y met du caramel.
C'est un très vieux vinaigre qui coûte beaucoup plus cher.
Qui coûte très cher, il n'y a pas un gramme de caramel.
Absolument. Alors, bon, on voit bien, il y a cette idée de consommation cachée qui fait que la consommation de sucre mécaniquement a augmenté, mais il y a aussi les comportements alimentaires. Et quand on s'interroge sur à quel moment on s'est mis à consommer autant de sucre, Vous avez deux moments phares. Vous,
voilà, alors j'isole deux moments. D'abord, parce que le sucre, c'est d'abord les États-Unis. C'est-à-dire que la civilisation sucrée, la Sugar Culture Society, disent-ils, ça vient des États-Unis. Et le moment qu'on pourrait isoler comme étant le moment important, c'est quand McDo propose du coca avec ses burgers. Et puis on pourrait ajouter un deuxième, donc ça on est dans les années 50, et puis on pourrait ajouter un deuxième moment qui est celui d'une célèbre pâte au chocolat et aux noisettes, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, qui s'appelle Nutella, et où peu à peu on installe la consommation de Nutella pour les enfants au petit déjeuner.
Alors cette consommation de sucre, elle n'a finalement, enfin cette augmentation de la consommation de sucre, elle n'a jamais rencontré aucun obstacle sur sa route, parce que vous dites la stratégie des lobbies du sucre, ça a toujours été de rejeter la faute sur d'autres produits. Voilà. Alors il y a eu une espèce de victime expiatoire pendant des décennies qui a été le gras, c'est-à-dire qu'on a dit le mal absolu c'est le gras, et on découvre aujourd'hui finalement que bah pas tant que ça quoi.
En fait, il faut bien comprendre que les lobbies sont concurrents. Et que le plus puissant l'emporte sur le plus faible. Donc, si on veut regarder la chose un peu au macroscope, on va dire la chose suivante. Il y a eu un lobby très puissant aux États-Unis qui était le lobby du tabac. Et puis un jour, il a plus été possible de dire que fumer, c'était bon pour la santé. Et donc, ce lobby du tabac s'est un peu arrêté. Et puis, un certain nombre de gens qui travaillent pour lui sont passés sur le sucre. Et puis, le lobby du sucre, qui a été extrêmement puissant aux États-Unis.
C'est quoi, c'est des cabinets d'avocats, c'est des experts.
C'est des lobbyistes, qu'il y en a plein aux États-Unis, vous le savez. C'est des gens qui financent des recherches pour montrer que c'est pas la faute du sucre, c'est la faute du gras. Et il se trouve que, dans ces années-là, 60, 70, 80, le lobby du gras est moins puissant.
Alors, chez nous, les lobbies du sucre, est-ce qu'ils sont puissants?
Alors, chez nous, ils sont pas très puissants. Chez nous, il y a une très vieille organisation que mon voisin connaît, forcément, qui s'appelle le CEDUS, qui a été créé dans les années 30 par les betteraviers. Mais c'est pas des gens qui sont sur le même registre que les Américains. Ils essayent de nous faire manger du sucre, ce qui est normal pour des gens qui en sont les fabricants, en tout cas les représentants, mais à travers des choses très françaises, qui sont le plaisir de manger, la table, le sucré. On va plutôt vers le millefeuille et les éclairs au chocolat que vers le soda de supermarché. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est le lobbying au niveau européen. C'est le lobbying organisé autour du Parlement et de la Commission européenne. C'est vraiment là, aujourd'hui, on recense au moins une soixantaine d'organisations qui interviennent directement. C'est là que les pressions se font
et qui sont financées par qui?
À part les très grands, par Kellogg's, par Coca-Cola, par Pepsi, par les très grands.
Alors, il y a un point qui est quand même très compliqué, et on y reviendra aussi avec vous, Gilles, c'est qu'en fait, c'est ce lien entre les lobbies et les scientifiques. Parce qu'en fait, on voit que les opinions des uns et des autres s'affrontent à coups d'études, où on vous dit, le sucre, non, c'est pas si mauvais, le sucre, c'est au contraire très nocif. Comment on fait, nous, consommateurs, pour déceler, finalement, ce qu'est une étude sérieuse de ce qu'est une étude pas sérieuse? Et puis, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'un scientifique qui est pro-sucre, c'est forcément un scientifique influencé, voire corrompu?
Alors d'abord, moi, je ferais une différence entre influencé et corrompu. Corrompu, c'est beaucoup. Influencé, je crois que c'est le cas. Pour retourner aux États-Unis,
un scientifique, c'est un scientifique.
Un scientifique, c'est un scientifique. Mais pour retourner aux États-Unis, dans les années 70-80, ce qu'ils appellent le Big Sugar, c'est-à-dire le lobby du sucre, est extrêmement puissant. On a retrouvé des mémos, par exemple, qui disent « la recherche est le pilier principal de la défense de l'industrie ». Et on sait aujourd'hui, à travers des enquêtes de journalistes, notamment de journalistes du New York Times, très, très, très longues, très enquêtées, très instruites, qui montre que, oui, il y a eu énormément d'enquêtes, de recherches, pardon, qui ont été subventionnées par le lobby du sucre. Oui. Mais directement pour l'innocenté, ça c'est très clair.
Et est-ce qu'on peut remettre en cause le sérieux de...
On peut remettre en cause l'idée, mais qui paraît d'ailleurs très facile à remettre en cause par bon sens, qui est de dire le sucre n'est pour rien dans les maladies cardiovasculaires, le sucre n'est pour rien dans le diabète, le sucre n'est pour rien dans l'obésité, tout est de la faute du gras. À la limite, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour se dire c'est peut-être la faute des deux.
Alors, on voit bien que la perception quand même du sucre est en train de changer. Mais vous dites, finalement, pour l'industrie agroalimentaire, c'est pas un problème, puisque de chaque nouvelle contrainte naît finalement une nouvelle opportunité de business.
C'est ça. Mais ça, c'est vrai pour le sucre comme pour beaucoup de choses.
Oui, mais on y reviendra avec Gilles aussi. C'est un peu...
Alors, il y a des gens qui s'adaptent visiblement plus ou moins bien. Il semble, par exemple, que Coca-Cola ait quelques difficultés, même si maintenant, il y a beaucoup de Coca-Cola zéro, etc., mais à faire passer l'idée que le Coca-Cola est une boisson qui fait consommer de façon excessive du sucre. 4000 morceaux de sucre par an pour chaque Américain lié au soda, tout de même. C'est pas rien, 4000 morceaux de sucre.
4000 morceaux de sucre.
Ouais. Lié au soda seulement, hein, sans parler du reste. Mais il y en a bien sûr qui s'adaptent. Par exemple, Orangina, qui appartient aujourd'hui à une grande compagnie japonaise, a décidé, par contrat, avec les autorités sanitaires françaises, de baisser lentement, année par année, le taux de sucre. Alors, vous allez me dire, alors bon, très bien, vous, là,
qu'est-ce qu'il faut
êtes pro-Orangina et anti-Coca. Orangina le fait par intérêt, hein, il le fait pas
Et qu'est-ce qu'il faut penser des édulcorants, du stevia, tout ça? Est-ce que là encore, c'est scientifiquement, c'est intéressant? Est-ce que c'est aussi un...
Alors, le bon exemple, c'est l'aspartame. L'aspartame, ouais. Il est prouvé aujourd'hui que le lobby du sucre américain a fait mener des recherches scientifiques pour prouver qu'il était cancérigène. D'autres études, assez nombreuses, montrent qu'en fait, il n'en est rien. L'aspartame ne serait pas cancérigène. Mais le lobby du sucre avait été passé avant. Et puis surtout, ça installe l'idée qui a l'air très présente dans la tête des marketeurs de tout poil, c'est que à partir du moment où l'opinion publique refuse quelque chose parce qu'elle a peur pour sa santé à travers l'alimentation, l'industriel l'abandonne tout de suite, même si finalement rien n'est très fondé. Ce qui compte, c'est l'homme du samedi après-midi ou la femme du samedi après-midi avec son caddie entre les rayons du supermarché.
Alors, on a beaucoup parlé de l'industrie agroalimentaire jusqu'à maintenant, mais il y a une matière première qui est le sucre, qui est aujourd'hui dominant sur le marché mondial du sucre.
Le Brésil, essentiellement, c'est le premier producteur de sucre au monde, suivi par la Thaïlande, suivi par d'autres pays. La France, aujourd'hui, est le premier producteur européen, 9/10 mondial, et la consommation mondiale de sucre est plutôt en expansion, beaucoup à cause des autres continents qui finalement consommaient peu de sucre, je pense à l'Asie.
En fait, la consommation mondiale augmente, elle est plutôt stagnante chez nous.
Exactement, voire en régression,
alors qu'elle augmente beaucoup dans les pays émergents.
Dans les pays émergents, dans les BRICS, etc. Je parlais autrefois, il n'y a pas longtemps, avec une amie thaïlandaise qui m'expliquait qu'aujourd'hui en Thaïlande, quand une mère de famille fait des pâtes, elle ajoute du sucre.
Est-ce qu'il faut... alors on voit que bon, les pouvoirs publics se sont quand même emparés du sujet. Il y a des décisions de politique économique anti-sucre qui sont prises.
Des taxes.
Des taxes, par exemple. Alors au Mexique, ça marche.
Ça marche un peu. Ça marche pas non plus de façon phénoménale. Mais ça marche un peu, oui. Ça marche un peu.
Ça a fait baisser la consommation.
Ça a fait baisser dans un premier temps la consommation. Mais on était parti tellement haut. Hein, 110 litres de soda par an. Hein, c'est...
Pour terminer, Bernard Pellegrin, est-ce qu'on va vers un futur moins sucré?
Normalement, ici, oui. En Europe, oui, on va vers un futur moins sucré. Ailleurs, pour l'instant, j'ai peur qu'on soit encore dans un tout sucre.
Alors, Gilles Rivière-Reckstein, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de peur alimentaire, alors que quand on regarde les statistiques officielles sur le plan sanitaire, jamais l'alimentation n'a été aussi sûre?
Je pense qu'il y a vraiment un business de la peur alimentaire. Il y a un business de la peur alimentaire pour pouvoir créer de nouvelles filières ou créer de nouvelles opportunités.
Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres quand même? Parce que les gens vont avoir du mal à nous croire quand on leur dit, mais sur le plan sanitaire, on n'a jamais aussi bien mangé. Sur, je sais pas, moi, les gens qui meurent de produits avariés, etc.
Il y en a qu'un. Enfin, disons, on va prendre le sujet un petit peu différemment. Les peurs alimentaires ont toujours existé. Mais généralement, jusqu'à récemment, on avait peur de quoi? On avait peur de manquer d'alimentation.
Ouais.
Et la peur alimentaire, l'agriculteur était considéré comme un réducteur de risque parce que lui, il vous amenait de la nourriture. Maintenant, cette nourriture pouvait être avariée, pouvait être mal conservée, etc. C'est ce qui entraînait la deuxième peur alimentaire, c'était la peur des intoxications alimentaires. Aujourd'hui, les intoxications alimentaires, il y en a, mais vraiment très 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 peu. Je pense que c'est en dessous de 200 personnes par an qui décèdent suite à des problèmes d'intoxication alimentaire.
Qui sont des chiffres historiquement bas. Alors j'ai découvert dans votre livre, ce que j'ignorais totalement, c'est qu'avant les années 50, le yaourt n'était vendu qu'en pharmacie.
Absolument. Si vous n'avez pas, on a oublié la diversité des produits qui sont disponibles aujourd'hui dans nos rayons. Alors, je ne dirais pas que tous sont très très bons, mais on a une diversité extraordinaire et qui est très importante pour une autre raison, c'est que nous sommes omnivores. Et étant omnivores, nous avons plaisir et besoin d'une alimentation variée. Donc, nous avons envie d'innover et envie d'essayer de nouveaux produits. C'est dans notre nature d'omnivore. Simplement, en même temps, nous sommes très prudents parce qu'on sait que manger peut être dangereux puisqu'il peut y avoir des intoxications alimentaires. Donc, on a un réflexe de prudence. Et c'est ce paradoxe-là qui crée une situation dans laquelle les peurs alimentaires sont extrêmement faciles à manipuler et à organiser.
Alors c'est ça, vous dites ces peurs alimentaires, elles sont instrumentalisées, notamment avec une redoutable mécanique qui est la fabrique du doute. Comment on fabrique ce doute ?
On fabrique de la peur plutôt. C'est en fait, je prends l'expression de la fabrique du doute parce que c'était celle qui était utilisée par le lobby des producteurs de cigarettes pour montrer que finalement on doutait des études. Exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que d'un côté on faisait des études montrant une chose, des études montrant une autre chose, et donc on créait un doute. Et donc on savait pas trop. C'est ce même mécanisme qui est utilisé, mais pour fabriquer des peurs. Et pour vous donner un chiffre très simple, vous montrer que ça marche très bien. On a fait un sondage, et aujourd'hui, 80% de la population regarde son assiette avec anxiété. 80%. Or, ce chiffre est en croissance de 30 points en 3 ans.
Mais pourquoi est-ce qu'on remet en cause cette alimentation moderne ?
Alors, on la remet en cause parce qu'aujourd'hui, la peur alimentaire, elle est basée sur tout ce qui n'est pas naturel. Voilà. Tout ce qui est additif, d'une manière ou d'une autre, est considéré comme quelque chose à risque. Et ça aussi, ça renvoie à quelque chose de très important.
Et c'est une forme d'obscurantisme ?
Non, pas, je dirais pas ça. Écoutez, avant
la conserve. On retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, sur d'autres sujets comme la vaccination ou des choses comme ça.
Regardez, avant la boîte à conserve, quand vous aviez un aliment, vous regardiez votre aliment, vous le jugiez avec les yeux. Ensuite, vous le touchiez pour voir comment il était. Ensuite, vous le goûtiez, vous le sentiez. Donc, tous vos sens étaient utilisés pour vérifier que cet aliment était était comestible. Or, aujourd'hui, vous achetez des produits dans lesquels vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc, cette peur de ce que monsieur le sociologue Fischler appelle les objets comestibles non identifiés est très forte parce qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc on veut des produits dans lesquels il n'y a plus d'additifs, il n'y a plus rien. On veut savoir ce qu'on mange et donc tout ce qui aurait été ajouté est une raison d'anxiété.
Oui, alors qu'en réalité, vous dites, tout ce qu'on mange aujourd'hui a été, à un moment ou à un autre de l'histoire, modifié par l'homme.
Ah ben bien sûr, bien sûr. Et on ne mange, il n'y a aucune céréale, et d'ailleurs il n'y a pas non plus d'animaux qui n'ont pas été génétiquement modifiés par l'homme depuis une centaine d'années, avec une accélération ces 20 dernières années, ou ces 50 dernières années, plutôt ces 50 dernières années. Donc oui, bien entendu, et en plus de ça, beaucoup d'aliments que nous mangeons, par exemple la tomate, mais la tomate c'est pas du tout un produit européen. La pomme de terre n'est pas un produit européen. Tous ces produits-là, ce sont des produits qu'on a amenés d'autres pays. La mandarine, c'est une production de l'homme. C'est l'homme qui a créé la mandarine. Donc nous sommes, et c'est normal, nous sommes dans l'innovation de nouveaux produits.
Alors donc, est suspect tout ce qui est ajouté. Hein, donc alors il y a trop d'engrais, trop de pesticides, trop de produits chimiques en tout genre. Et là, effectivement, est-ce qu'on jette pas le bébé avec l'eau du bain finalement ?
Bien sûr, parce qu'en fait, on se rencontre, et c'est là où c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que pour moi, toutes les campagnes que nous voyons aujourd'hui autour d'un certain nombre de peurs, ce sont des leurres.
Par exemple.
Ce sont des leurres pour justement ne pas regarder les vrais problèmes. Alors, je rejoins ce que vous disiez sur la question du sucre. Il est évident qu'on mange beaucoup trop de sucre. Il est évident que s'il y a une question sanitaire à prendre en compte dans la question alimentaire, c'est de manger équilibré, de rien manger en excès.
Or, mais sur le sucre, c'est possible. Mais alors, sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'on dit ?
Écoutez, sur les perturbateurs endocriniens, par exemple, je viens à cette émission, vous m'avez mis de la pommade dans tous les sens.
Ouais.
Bon, personne ne se pose la question de s'il y avait des perturbateurs endocriniens là-dedans. En revanche, dans la nourriture, on se les pose. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette focalisation sur les perturbateurs endocriniens sur la nourriture ? Est-ce que c'est un vrai sujet ? Moi, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a d'autres domaines dans lesquels les perturbateurs endocriniens sont beaucoup plus dangereux. Les pesticides, par exemple, la personne qui a fait la préface de mon livre explique que...
Dites-nous qui, parce que c'est intéressant.
C'est le professeur Corpé, qui est un des spécialistes concernant les questions relatives au cancer et à l'alimentation. Et ce qu'il explique, c'est que lui, il mange une pomme tous les jours avec la peau. Il ne prend pas une pomme bio et il espère vivre 100 ans. Et il estime qu'en 100 ans, il aura consommé 30 000 pommes. Or, s'il veut ingurgiter la même dose de produits cancérigènes que dans un simple verre de vin, il explique qu'il devrait manger 25 millions de pommes. Donc là, vous voyez très bien qu'on focalise sur un problème, alors que peut-être que ce n'est vraiment pas le vrai sujet. Moi, ce que je dis, c'est que la raison pour laquelle on le fait,
c'est quoi ?
La raison pour laquelle on le fait, c'est parce que ça fait du business derrière. Vous avez des filières entières qui se créent sur la peur alimentaire. La peur des pesticides permet le développement de l'agriculture biologique, puisqu'elle, elle prétend ne pas utiliser de pesticides. La peur du gluten permet des filières sans gluten, mais etc.
Gilles, honnêtement, les filières bio aujourd'hui, ça pèse rien, c'est tout petit, c'est, je dirais pas que c'est anecdotique, mais vous avez l'air de dire que ça devient un gros business, etc. Mais est-ce que c'est le cas, la part de la consommation de produits bio des Français, elle est faible?
Mais bien sûr, mais j'ai pas dit que ça faisait le changement global, mais vous avez des filières, et c'est d'ailleurs les gens qui sont dans ces filières, aujourd'hui, les grandes surfaces font du bio, font du non bio, etc. On est dans un marché multiple, avec une segmentation du marché qui est entretenue pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de nouveaux consommateurs. Ceci dit, dans le bio, la marge des grandes surfaces est beaucoup plus importante que le reste.
C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, là, le bingo, en fait, c'est quoi ? C'est que le produit 100
coûte plus cher.
Se vend plus cher.
Exactement. Exactement.
Et donc, même problématique que pour le sucre, finalement, le secteur de l'agroalimentaire, lui, il s'en sort toujours.
Absolument. Non seulement il s'en sort, mais il a intérêt à créer ce genre de dynamique, parce que avec la dynamique, il y a des nouveaux marchés, des nouveaux consommateurs qui viennent, des nouveaux produits qu'on met en avant, il y a une dynamique qui est mise, et surtout, ça permet de ne pas regarder les vrais problèmes. Pour les supermarchés ou pour la grande distribution, le vrai problème qui fâche, c'est la distribution de la valeur ajoutée. Pourquoi nous avons des agriculteurs qui sont en difficulté ? Parce qu'ils ne sont plus vraiment rémunérés pour ce qu'ils produisent. Donc tant qu'on focalise la population sur des faux problèmes, eh bien, les vrais problèmes ne seront pas traités. C'est un des risques qu'il y a avec les états généraux de l'alimentation, qui devraient en principe mettre sous la table de négociation l'ensemble des filières pour discuter de la valeur ajoutée, de la répartition de ces valeurs ajoutées. Or là, vous avez les écologistes qui vont venir y participer pour, eux, focaliser sur d'autres problèmes. Et ça, c'est bien entendu le bingo pour la grande distribution, qui se réjouit déjà de voir que les états-majors de l'alimentation ne vont pas traiter les vrais problèmes.
Alors, je vous pose la même question qu'à Bernard Pellegrin, c'est-à-dire que pour le consommateur lambda, entre les rapports contradictoires, c'est quand même très difficile de s'y retrouver. Là encore, comment on trie le bon grain de l'ivraie ? Est-ce que on peut dire qu'il y a des rapports qui sont pas sérieux ? Alors, vous critiquez un peu les ONG et leurs études, vous dites que c'est quand même pas très scientifique, mais comment on fait pour finalement distinguer une étude sérieuse d'une étude pas sérieuse ?
En tant que consommateur, il est très difficile de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une vingtaine d'années, depuis l'histoire de la vache folle, nous avons mis en Europe, mais aussi dans d'autres pays, dans d'autres endroits du monde, des organismes sanitaires, publics, qui, eux, font des réelles évaluations. En France, nous avons l'ANSES. L'ANSES fonctionne très bien. La plupart des avis que donne l'ANSES sont absolument pas contestés. Vous avez d'autres pays qui ont exactement mis les mêmes structures. L'Europe met ses propres structures. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que toutes ces structures, qui sont des structures nationales, c'est pas un scientifique ici ou un scientifique là. Ces structures-là, moi, je pense qu'on peut leur faire confiance. Et quand vous regardez leur avis, en général, ne se contredisent pas. Si vous avez une structure qui dit quelque chose, une agence sanitaire qui dit quelque chose, et toutes les autres qui disent autre chose, il peut y avoir un petit problème. Mais en général, elles ne se contredisent pas. Et quand vous connaissez le fonctionnement de ces agences, franchement, je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette panique. Et il faut plutôt faire revenir à du bon sens. Le bon sens, c'est quoi ? Manger un peu de tout, manger sans excès et arrêter de paniquer dès qu'on voit le moindre reportage.
Oui, sauf qu'on a quand même, le consommateur, il a quand même des raisons d'être inquiet. Quand vous avez eu la vache folle, quand vous avez eu les lasagnes à la viande de cheval, on voit qu'il y a quand même tout un tas de dysfonctionnements qui méritent quand même qu'on soit un peu vigilant sur ce qu'il y a dans l'assiette.
Est-ce que c'est un scandale sanitaire d'avoir de la viande de cheval dans des lasagnes ? Il y a un scandale commercial. Et ça a eu des conséquences énormes pour l'entreprise qui l'a faite. Mais il y a il y avait pas un problème sanitaire. Il n'y a pas eu un seul mort suite à ce scandale. Et sur la vache folle, je vous ferai remarquer qu'il y a eu plus d'agriculteurs qui se sont suicidés suite au traitement qu'on a fait avec la vache folle, que les intoxications alimentaires qui en découlent. Donc, de nouveau, je ne dis pas que tout est rose dans ce monde. Je dis qu'en ce qui concerne la santé, on parle bien de santé, là, on a de quoi être rassuré. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que nous sommes en très bonne santé. Nous vivons de plus en plus vieux. Nous avons pris 20 années d'espérance de vie, y compris en bonne santé, depuis une trentaine d'années. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et l'alimentation en fait partie.
Merci beaucoup, Gilles Rivière-Weckstein, pour, je rappelle, votre livre « Panique dans l'assiette ». C'est aux éditions Le Publieur. Merci, Bernard Pellegrin, pour votre livre « Sucre, enquête sur l'autre poudre ». C'est publié aux éditions Taillandier. Allez, on se retrouve tout de suite avec nos critiques et nos chroniques.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission que nous clôturerons avec nos chroniqueurs, comme de coutume, Stéphanie Collo et Benaouda Abdedaïm. Mais d'abord, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques, responsable des pages livres du magazine. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe, directeur de la revue sociétale et le critique attitré de la Société d'économie politique. Alors, une rubrique très matière première, on va le dire, aujourd'hui, au sens large, hein, évidemment. Nous commençons avec le choix de Jean-Marc. Jean-Marc, vous avez choisi le choix d'une vieille connaissance de la librairie, un de nos vieux amis, Alessandro Giraudeau, qui est toujours absolument au top lorsqu'il s'agit de raconter des histoires extraordinaires. Et là, en l'occurrence, c'est « Histoire extraordinaire des matières premières » chez François Bourin. J'ai cru comprendre que ça n'était que le tome 1, d'ailleurs, non ?
Oui, exactement. Il est annoncé à la fin du livre qu'il y aura un tome 2.
Exactement.
Et donc, on reconnaît effectivement la patte d'Alessandro Giraudeau. C'est
un conteur.
Un conteur que nous connaissons. On a déjà eu l'occasion de parler de son livre sur le fer et l'or, qui s'annonçait, qui s'appelait quand le fer coûtait plus cher que l'or. Et donc là, il passe en revue, effectivement, dans des chapitres très courts. C'est un peu la marque de fabrique d'Alessandro Giraudeau, des chapitres très courts. Il dit d'ailleurs dans la préface qu'il y a deux façons d'appréhender l'histoire économique. Une façon qui consiste à s'intéresser à des anecdotes, à des événements qui paraissent microscopiques, mais qui finissent par avoir un impact assez fort sur l'économie. Et puis une façon beaucoup plus générale, avec des grandes sagas, des visions très en haut. Et il dit, moi, je pars de l'anecdote. Et donc, je vais vous raconter des anecdotes autour des matières premières. Alors, on passe en revue une foule de matières premières. Évidemment, les traditionnelles, on parle d'or, on parle d'argent, on parle de charbon. Mais on va vers des sujets beaucoup moins traités, à mon avis. Il parle des algues, par exemple. Il nous explique qu'on fabrique pendant très longtemps, on a fabriqué de la soude à partir des algues, jusque dans les années 50 en Bretagne. On parle du tabac, évidemment. Et alors, il y a un petit chiffrage sur le tabac, où il explique combien ça coûte et combien ça rapporte, et que finalement l'État est plutôt bénéficiaire entre les économies qu'il fait grâce à la mortalité accrue et le coût qu'il a dépensé à cause du cancer du tabac. Il dit voilà, bon, il fait un petit équilibre. Alors, c'est très bien construit, c'est comme toujours avec Alessandro Giraudeau, c'est une sorte de chevauchée. On parcourt comme ça à grandes enjambées l'histoire, les territoires. Quelquefois, on se dit il devrait s'arrêter, il devrait un peu nous donner un peu de respiration, rentrer dans davantage de détails. Il rebondit. Ce qui est agréable, c'est qu'il est très érudit, donc il évoque tout un tas de personnages. Et finalement, le personnage qui, à mon avis, ressort de tout ça, c'est Pline. Il y a une espèce de déclaration d'amour à Pline, l'auteur romain. Et à chaque fois, sur chaque matière première, il passe un petit passage sur Pline. Enfin, sur chaque matière première, il y a des matières premières où sur Pline et sur la façon dont il a décrit le monde de l'Antiquité. C'est un livre passionnant. Effectivement, chaque petite histoire est lisible en elle-même, donc on peut la voir dans sa bibliothèque, sur sa table de nuit, et lire une histoire par-ci, par-là.
Christian Chavagneux. Bon,
Alessandro Giraudeau, Jean-Marc l'a dit, c'est l'homme d'un seul livre. Hein, il est passionné par l'histoire des matières premières. Ce qui est bizarre, c'est qu'année après année, il arrive à refaire le même livre. Il trouve toujours des éditeurs pour nous raconter des petites histoires des matières premières. Il le dit, moi, je fais de l'anecdote économique.
Du propos de table.
Je suis là pour éveiller la curiosité économique et pas plus. Et c'est vrai qu'on prend plaisir. Alors, c'est vrai que bon, l'or, le fer, l'opium, bon, les matières premières déjà largement couvertes, bien battues, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, après, on se plonge toujours dans les petites histoires, deux, trois comme ça que j'ai retenues. En moins 58, avant Jésus-Christ, vous avez un empereur romain qui décide de distribuer du blé gratuitement à tout le monde. Et donc là, vous avez des jeunes pauvres personnes qui travaillent dans les grands champs de blé qui disent, bah, grâce au blé, je suis pas obligé d'accepter ce travail très mal payé, je vais pouvoir aller faire autre chose.
Revenu universel.
Eh ben voilà, vous avez trouvé. De l'autre côté, vous avez des patrons qui disent à leurs esclaves, bah, puisque l'État vous donne déjà du blé, je vais réduire ce que je vous donne. On est en plein débat sur le revenu universel, du côté positif, du côté négatif. C'était absolument, voilà, ces petites résonances entre l'histoire ancienne. L'Antiquité est très, très présente, hein. Dans le livre, ce sera souvent l'Antiquité, l'Ancien Régime. Et puis un petit peu, pour aujourd'hui, le XXe siècle, mais très, très peu. C'est ça qui fait l'intérêt, c'est que toutes ces anecdotes sont marquées par les temps anciens. Et donc, on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris pourquoi on dit un pays de cocagne, hein, pays de cocagne, c'est un pays où il y a de la cocagne, c'est-à-dire des boules d'une feuille qui s'appelle les guèdes. Et avec ça, quand on les écrase, on fait une magnifique couleur bleue. Et donc, parce que dans les matières premières, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a les couleurs aussi. Il y a un chapitre, je vais terminer là-dessus, sur une matière première qu'on voit jamais dans les grands livres d'histoire de matières premières, c'est l'urine.
Oui.
Parce que on s'aperçoit. Alors évidemment, ça sert à la.
Meilleur chapitre.
C'est un des meilleurs chapitres. Là-dessus. Parce que ça sert à la tannerie. Alors évidemment, vous vous promenez dans le tiers monde, dans des tanneries, à l'odeur et à ce qui coule le long des rigoles, vous comprenez qu'il y a de l'urine quelque part. Mais on vous apprenez aussi que dans l'Antiquité, on faisait des bains de bouche à l'urine parce que ça donne les dents blanches. Et on apprend aussi que les prostituées de Venise s'enduisaient les cheveux d'urine, vraiment, vous êtes bien mouillé, allait se mettre au soleil et ça donnait le fameux blond vénitien qui séduisait les hommes qui passaient par Venise. Donc, vous voyez, il y a plein d'anecdotes qu'on peut raconter à partir de ce livre.
Alors, beaucoup plus agréable pour la bouche que l'urine, Christian Chavagneux, le miel. Et là, vous avez choisi de nous parler du livre de notre confrère de l'Express, Béatrice Mathieu, qui co-signe avec François Roche, Enquête sur le nouvel or jaune. C'est chez François Bourin, éditeur.
Alors là, on n'est pas dans l'anecdote, on est dans l'enquête. Hein. On a un marché mondial du miel, ce qui est un marché de niche. Hein. Et donc, un marché de niche, ça veut dire petite quantité, mais gros prix. Et donc, ça intéresse évidemment beaucoup de monde. Encore une fois, c'est une façon de raconter la mondialisation. Les Chinois ont été encore les disrupteurs, comme on dit aujourd'hui, du marché du miel. Ils sont les premiers consommateurs, les premiers producteurs, et sont devenus un exportateur mondial absolument incroyable. Le problème, nous disent les deux auteurs, c'est que les ruches n'ont pas suivi. Donc vous avez une augmentation assez importante des ruches, mais une explosion de la production et de l'exportation. Donc il y a des trucs bizarres dans les statistiques chinoises. Et c'est quoi? Ils nous disent, bah, il y a sûrement dans le miel chinois un peu plus de sucre, un peu plus d'eau, voire c'est peut-être du miel de synthèse qui est fabriqué non pas par des abeilles, mais en laboratoire. En fait, on apprend quelques chapitres plus tard qu'il y a un marché mondial du faux miel et qui est très important. C'est normal, un petit marché avec des gros prix, ça attire toujours les fraudeurs. Alors en France, on est des très gros consommateurs de miel. On a entre 40 000 et 70 000 apiculteurs, dont Béatrice Mathieu, qui en fait partie. Et on nous dit que c'est pas assez pour répondre à la consommation française. On en importe beaucoup. Et du coup, Bercy a été enquêté. Et sur les enquêtes, malheureusement, la moitié de ce qu'il y a sur les étiquettes est juste, mais la moitié est complètement faux. Vous avez du miel des Vosges qui vient d'Espagne. Vous avez du miel bio qui n'est pas bio. Vous avez du miel local et naturel qui vient de Hongrie. Bref, attention. Et puis, bien sûr, le livre ne pouvait pas se terminer sans nous parler des abeilles. Parce que qui dit miel dit abeilles. Et il y a une destruction, on le sait, très forte des colonies d'abeilles partout dans le monde. Et notamment en France. Donc les auteurs nous disent, bah, il y a bien sûr les fameux pesticides dont l'agriculture française est très très malheureusement très très consommatrice. Il y a aussi les manipulations des hommes et puis il y a aussi des nouveaux parasites qui sont venus. On a parlé par exemple des frelons asiatiques, mais il y en a d'autres. Donc voilà, nos abeilles sont en train de disparaître. Au-delà du miel et des gourmands, c'est tout notre écosystème qui est en danger aujourd'hui du fait de la disparition des abeilles.
Jean-Marc Daniel, est-ce que vous êtes pour lécher les babines
Oui, mais absolument.
De cet opus sur le miel.
Personnel, je suis un grand consommateur de miel.
N'êtes-vous pas un grand consommateur,
Jean-Marc? Ça, c'est vrai. Mais notamment de miel. Et en plus, le livre rebondissait sur le livre précédent, puisqu'il cite abondamment, quand il parle du sucre et de la comparaison entre l'évolution de la consommation de miel et de sucre, le livre de Alessandro Girondo. Mais, alors, c'est un livre qui est court. C'est-à-dire, ça fait à peine 100 pages. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils effleurent les problématiques. C'est-à-dire que Il y a une sorte de filon en ce moment. On a parlé de concentré de tomates il y a deux ou trois semaines de ça. Là, c'est le mien. Il y a un peu une sorte de littérature qui est en train d'apparaître sur les rayons des librairies autour des matières premières alimentaires.
Sauf qu'il n'y a pas tant de données disponible que ça. Je veux dire, c'est encore un terrain qui reste à défricher.
À défricher. Alors sur le miel, c'est intéressant. Là où je rejoins dans les remarques de Christian, il y a deux choses effectivement intéressantes. Il y a la première, cette interrogation sur comment est-ce qu'on peut produire autant de miel avec aussi peu d'abeilles en Chine. Donc ils en parlent à plusieurs reprises. Il n'y a pas de vraie solution, mais effectivement, on voit qu'il y a derrière tout ça, il y a une gigantesque fraude, il y a une gigantesque corruption. D'ailleurs, ils disent bien que le système est extrêmement corrompu. Et le deuxième élément, c'est toute la partie sur l'abeille. Comment est-ce que l'abeille, effectivement, est autant victime, alors des pesticides et tout ça, mais aussi de parasites qui apparaissent, certains depuis très peu de temps. D'ailleurs, il y a une sorte d'acarien là, qui leur rentre dedans depuis 2004. On ne sait pas d'où il vient et ça. Là où je suis un peu, si tu aurais mérité un peu plus, c'est le dernier chapitre sur la famille Michaud. C'est-à-dire que le producteur fait partie de la gestuelle et l'aventure en général de la saga autour de la matière première. Celui sur les concentrés de tomates, d'ailleurs, il y avait de très beaux portraits de producteurs. Là, il y a un petit portrait d'une famille des Pyrénées-Atlantiques qui est le principal producteur, enfin pas producteur en tant qu'apiculteur, mais producteur en tant que commerçant de miel en France, et un des principaux au niveau mondial. Et on sent bien qu'il y a une patte humaine qui aurait pu être davantage utilisée. Mais c'est un livre, encore une fois, c'est 100 pages, donc on apprend beaucoup de choses, c'est bien écrit, en plus ça se lit très très bien, donc c'est un livre effectivement à emporter en vacances.
Christian Chavagneux, un mot pour conclure.
Non, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc. On a là une enquête assez complète et très très facile à lire, donc c'est très plaisant.
Merci messieurs. Allez, on se retrouve avec nos chroniqueurs. Et tout d'abord, Stéphanie Collot qui, dans son livre d'avant, remet à sa place l'entrepreneur schumpeterien.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'avant.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Alors, cette semaine, on plonge au cœur de la mécanique schumpeterienne en décortiquant le tandem entrepreneur-imitateur, ce qui va permettre de lever certains malentendus sur Schumpeter. Alors d'abord, on va peut-être illustrer notre duo entrepreneur-imitateur avec un exemple d'aujourd'hui.
Uber, l'entrepreneur, qui a révolutionné un secteur qui existait déjà et qui très vite a eu des concurrents, les imitateurs, comme chauffeurs privés en France. Les imitateurs observent ce que fait Uber et corrigent à la marge pour se distinguer. Et aujourd'hui, on assiste à une vraie montée en puissance des imitateurs. Ouais. Ce sont deux personnages clés et interdépendants dont le rôle a été expliqué, détaillé dans Théorie de l'évolution économique de Schumpeter, publié en 1911. Schumpeter n'avait alors que 28 ans. Et dans ce livre, il met en valeur le rôle de l'humain dans l'évolution économique, là où d'autres comme Keynes ne mettent en valeur que la dynamique des grands agrégats économiques.
Alors, c'est important, Stéphanie, parce que c'est l'occasion de redonner sa place à chacun, à l'entrepreneur et à l'imitateur, parce que on pense toujours que chez Schumpeter, finalement, c'est l'entrepreneur qui est le point de départ de tout, qui est au point de départ de toutes les fameuses grappes d'innovation. Or, Schumpeter, il nous dit pas ça. Mais d'abord, Schumpeter, qui est-il ?
Quelques mots sur l'auteur d'abord. Joseph Alois Schumpeter, c'est un économiste autrichien du début du XXe siècle. Après des études de droit et d'économie, il publie coup sur coup deux livres très importants. D'abord, Nature et contenu principal de la théorie économique en 1908, et trois ans plus tard, Théorie de l'évolution économique. Après la Première Guerre mondiale, il prend la tête du ministère des Finances, puis dirige une banque privée qui fera faillite quatre ans plus tard.
Oui, ce sera pas un grand chef d'entreprise.
Il revient ensuite au monde académique qu'il ne quittera plus. Il enseigne à l'université de Bonn, puis Harvard pour échapper à la montée de l'extrémisme dans l'Europe centrale. Et Harvard, justement, où il forme les plus brillants économistes de l'après-guerre, comme Paul Samuelson. Ni keynésien, ni néoclassique, c'est un hétérodoxe qui bouscule la pensée économique établie. On le rapproche souvent de l'école autrichienne, donc libérale, mais certains considèrent qu'il n'en faisait pas partie.
Oui, c'était le cas de Ludwig von Mises qui, lui, pour le coup, ne peut pas être soupçonné de ne pas être 100% appartenant à l'école autrichienne. Alors, donc, on y revient à ce couple entrepreneur-imitateur. Lui, Bon, il dit l'entrepreneur, c'est bien, mais finalement, est-ce que l'imitateur n'a pas un rôle encore plus important ?
Bah en fait, pour Schumpeter, la source, le moteur de l'évolution économique, c'est l'entrepreneur, dans le sens où c'est lui qui apporte une innovation. Ouais. Être entrepreneur, c'est se faire l'agent du changement, c'est bousculer les habitudes des salariés, des consommateurs, de ses concurrents. Et ce qui fait l'entrepreneur, c'est sa capacité à mettre en place de nouvelles combinaisons productives. Elles sont de 5 types. La fabrication d'un bien nouveau, une nouvelle méthode de production, de nouveaux débouchés, une nouvelle source de matières premières ou encore la réalisation d'une nouvelle organisation.
D'accord. Et alors l'imitateur, lui, il vient après. Mais oui. Il a un rôle très important.
C'est ça, parce que donc l'entrepreneur n'est pas le simple créateur d'entreprise, il défriche le terrain, mais les imitateurs veulent profiter de la prospérité et de la croissance qu'a créé l'entrepreneur. Ce qui veut dire que l'entrepreneur, eh bien, c'est l'étincelle, et l'imitateur, les imitateurs, ce sont les barils de poudre. Donc pour changer le monde et vraiment créer une nouvelle croissance, eh bien, l'entrepreneur a besoin des imitateurs et réciproquement.
Merci Stéphanie. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre globe-trotteur Bennaouda Abdennaïm pour son tour du monde des études.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Bonjour Bennaouda.
Bonjour.
Alors vous commencez avec une drôle d'étude cette semaine sur le Brexit, ses conséquences pour l'intégration européenne, mais alors des enseignements pour l'Équateur. Mais quelle drôle d'idée qu'a eu ce chercheur.
Non, parce que les négociations du Brexit ont commencé cette semaine et le Brexit intéresse, voire obsède, le monde entier et notamment l'Équateur où le doyen du Centre équatorien d'économie publique a publié cette étude. C'est une lecture socialiste latino-américaine qui entend replacer cet événement dans le cadre de cette vision-là, de façon originale, donc vu d'ici, ouais. Et dans un contexte qui l'englobe, c'est-à-dire celui de la crise financière internationale de 2008, avec ces ondes de choc qui ont ébranlé les fondations de l'Union européenne et dès lors son développement économique, nous dit l'auteur. Alors, la volonté populaire britannique de sortir de l'Union européenne serait ainsi d'abord une expression du nouveau malaise de la mondialisation, je cite, faisant référence là aux travaux de l'économiste américain Joseph Stiglitz. Et le professeur Jorge Orbeleon perçoit donc le Brexit comme le reflet d'une profonde division d'une société où la majorité du peuple, avec le moins de revenus et d'instruction, a eu la possibilité de se manifester contre l'intégration avec l'Europe. Alors comment l'Équateur, pour sa part, parce que c'est quand même ça le sujet, peut bien aborder cette évolution ? L'auteur écrit que le risque majeur réside dans une aggravation du déficit commercial britannique et une instabilité financière de l'Union européenne à 27, qui conduisent à une lente et longue dépréciation aussi bien de la livre sterling que de l'euro. Les exportations équatoriennes vers l'Europe en subiraient le contre-choc, alors que les balances commerciales, aussi bien avec l'Union européenne qu'avec le Royaume-Uni, sont actuellement excédentaires pour ce pays.
Alors ensuite, Bennaouda, dans un moment qu'on peut qualifier peut-être un peu de protectionniste, ou du moins existe la tentation protectionniste, une étude qui fait le point sur la façon dont l'adhésion de la Chine à l'OMC a bénéficié aux consommateurs américains.
Alors c'est une démonstration qui est fournie par une économiste de la Réserve fédérale de New York et trois universitaires, un en Californie, un en Australie et une en Chine. Alors il y a tant d'articles, d'études, de livres, de pamphlets qui portent sur les conséquences néfastes supposées, ouais, de cette adhésion chinoise. Bah,
supposée, vous nous avez déjà apporté ici plusieurs études qui montraient clairement, oui, des effets néfastes.
Mais il n'y a pas une seule vérité, n'est-ce pas, sur l'emploi industriel américain. Il y a aussi cela, il y a aussi ce que ça a quand même apporté au portefeuille des Américains. Ouais. Donc et l'effet aura été indirect. Et ce calcul, dans les 5 ans qui ont suivi, le choc a conduit à une diminution des prix manufacturiers aux États-Unis de 7,6%. Ça s'est traduit par un gain de pouvoir d'achat assez considérable aux États-Unis. Donc, et le recours à un modèle économétrique de 2015 évalue à 1 million d'emplois perdus aux États-Unis du fait de l'accroissement des exportations de la Chine vers les États-Unis. Mais d'un point de vue macroéconomique, à l'échelle nationale américaine, à plus long terme, le pouvoir d'achat s'améliore de 6,7%. Pour ceux qui ont garder un emploi. Alors, ce travail de recherche établit qu'au moins les deux tiers de l'effet chinois à l'OMC sur ces prix américains à la baisse proviennent de la baisse des tarifs sur les intrants intermédiaires. c'est-à-dire les éléments entrant dans la production chinoise. Et la Chine, de la sorte, a augmenté la quantité et la variété de ses exportations, de ses importations, pardon, de ses importations de composants, ce qui a conduit ensuite à une hausse de la valeur de ses exportations vers les États-Unis.
Et on peut penser que ces économies ont permis aussi de créer des emplois, notamment des emplois de service aux États-Unis. Ça n'est pas ce grand défenseur du libre-échange qui est Jean-Marc qui nous dira le contraire, j'imagine.
Exactement.
Alors par contre, dernière étude, Benahouda, là j'ai hâte de vous entendre, l'effet de la télévision occidentale sur le crime avec un travail effectué en Allemagne de l'Est.
Alors là, on peut voir que certains économistes parviennent à se poser vraiment toutes sortes de questions. Donc c'est une étude assez fascinante, publiée par le Centre d'économie institutionnelle de Marbourg, c'est dans l'ouest de l'Allemagne. C'est un prisme finalement sur la réunification. En RDA, il y avait des villes et des régions qui captaient les chaînes de la RFA et d'autres pas du tout. Alors à Leipzig, par exemple, vous aviez 5% seulement de citoyens qui ne regardaient jamais la télévision de l'Ouest, ouais. Alors qu'à Dresde, ils étaient 63%. Donc à Dresde, on regardait beaucoup moins la télévision de la RFA. C'est une exposition à l'information, au divertissement, à la publicité qui a donc différé idéologiquement du tout au tout dans un même pays. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et les auteurs rappellent les travaux sur la contribution du contenu des médias à l'apprentissage social. Un apprentissage qui conduit, nous disent-ils, à une désinhibition dans ce qui fait le quotidien, la relation familiale, les relations intimes, l'acte de consommer, voire donc les formes de délinquance. Ouais. Alors, dans la décennie qui a suivi la réunification, il montre que le taux de délinquance a été significativement inférieur dans les zones qui avaient eu accès à la télévision ouest-allemande, 14% de moins. La pertinence réside dans la pondération parce qu'elle est établie avec au travers du taux de chômage, du PIB par habitant, de la densité de population, je ne vais pas vous donner l'ensemble des critères. Moins d'homicides, moins d'agressions sexuelles, moins de vols dans les zones où on pouvait donc capter les chaînes de la RFA. En revanche, dans la fraude, le faux, l'usage de faux, 21% de plus parmi ceux qui avaient accès à la télévision à la RFA, de la RFA. Tim Frio et ses collègues se gardent quand même de toute conclusion définitive. Nos résultats ne sont pas conformes à nombre d'intuitions de base.
Parce qu'on a moins de crimes et donc plus de vols.
Exactement.
Quand on regardait la télé ouest-allemande.
Voilà, on arnaque plus que qu'on agresse. Voilà, c'est un peu ça la conclusion globale.
Merci beaucoup Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quel est votre ultime choix pour cette émission ?
Numéro 7 de la Revue du Crieur, une revue.
Ah, vous l'aimez, cette Revue du Crieur.
J'aime bien cette Revue du Crieur. On part aux États-Unis avec un article, une enquête sur ces milliardaires qui ont peur de la fin du monde et donc qui se construisent des bunkers et qui sont en train d'organiser leur fuite vers la Nouvelle-Zélande. C'est assez surprenant.
Pourquoi la Nouvelle-Zélande?
Je sais pas. Ça leur paraît le paradis pour demain, là où on peut se cacher. Il y a aussi, on reste aux États-Unis avec les gangs de Chicago. Chicago est redevenue la ville très violente des années 30. Et il y a une mise en scène du rap et de la vidéo. Mise en scène du crime à travers le rap et la vidéo, une enquête absolument fascinante aussi là sur cette partie des États-Unis. Bon, il y a un papier sur les 40 ans du centre Beaubourg qui est un peu moins laudateur que ce qu'on a entendu ces dernières semaines, ces derniers mois, et puis plein d'autres enquêtes absolument formidables, dont une sur la mode du développement personnel et ce que ça dit sur l'individualisation de nos sociétés. Bref, encore un excellent numéro passionnant.
Jean-Marc Daniel.
Mais moi aussi, j'ai choisi une revue, la revue Commentaire.
C'est bien de réhabiliter,
oui,
d'encourager les revues.
La revue Commentaire, qui est une revue bien connue, en année au numéro 158. Donc c'est le numéro d'été. Et évidemment, le Commentaire fait un état des lieux au début de la présidence Macron, à la fois les enjeux, le programme, l'adéquation entre ce programme et les difficultés que traverse le pays. Et il y a un papier très prémonitoire par rapport à ce qu'on est en train de découvrir dans les travaux du corps de Philippe Trénard, que nous connaissons tous, sur comment les retraites vont évoluer. Et pourquoi ça reste, malgré toutes les réformes dont on nous a parlé, un des problèmes récurrents de notre économie. Un numéro très très précis sur ce qui nous attend au travers de M. Macron.
Problème mis aussi en évidence par les derniers travaux du corps.
Et exactement.
Qui contredisent d'ailleurs les travaux très optimistes de l'année précédente. Allez y comprendre quelque chose. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi cette semaine, puisque le salon Vinexpo s'est tenu à Bordeaux du 18 au 21 juin, rappelons que c'est le plus prestigieux salon viticole du monde. J'ai donc choisi cette semaine Économie du vin dans la collection Repères, la découverte. C'est écrit par Jean-Marie Cardebas, professeur à l'université de Bordeaux Bordeaux et fondateur du groupe de recherche Bordeaux Wine Economics. Alors, c'est une plongée dans un secteur passionnant parce que le vin est un produit aux multiples facettes. Hein. C'est un produit agricole, c'est un bien de luxe, c'est aussi un produit manufacturé, c'est même un bien culturel, voire un support de placement financier. Et puis aussi, c'est un secteur, celui du vin, qui subit depuis 20 ans des mutations spectaculaires entre l'émergence de nouveaux pays producteurs, entre l'apparition de nouveaux consommateurs et de nouveaux modes de consommation, tout ça sur fond de réchauffement climatique. Bref, un livre à déguster sans modération. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne lecture et à la semaine prochaine.